Ce matin, on est dans notre deuxième exposé biblique dans notre série « La Sainte Bible ». La Sainte Bible. Tantôt, l'expression qui me venait à l'esprit, c'est la Sainte Flanelle, mais ça, ce serait un autre sujet. On va rester avec la Bible, c'est bon? Donc, la Sainte Bible. Pourquoi est-ce qu'on commence l'année en faisant une série sur la Bible plutôt que simplement prendre encore un autre livre de la Bible, un des 66 livres, puis l'exposer? Parce qu'on veut prendre le temps de s'arrêter puis réaliser cette grâce que nous avons d'avoir les Saintes Écritures, d'avoir la Bible, comprendre comment Dieu veut nous rencontrer en 2020, personnellement, comment il veut nous parler, comprendre comment Dieu travaille à travers les Écritures, saisir davantage quelle place occupent les Écritures dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants. Il y a des gens qui sont cyniques par rapport à Dieu, par rapport au christianisme, puis qui vont croire, par exemple, que l'Église a inventé la Bible. L'Église a composé la Bible pour se créer un mythe. Mais lorsqu'on comprend bien que la Bible, c'est vraiment un livre qui est inspiré de Dieu, en réalité, on pourrait dire que c'est la Bible qui crée l'Église. Est-ce que vous me suivez? En exposant les Écritures, en lisant les Écritures, on découvre l'Évangile, puis on vient à la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est le contraire. Ce sont les Saintes Écritures, la Bible, qui créent l'Église. Et de la même manière, ce sont les Saintes Écritures qui créent chacun des chrétiens. Parce que la foi qu'on a en Jésus-Christ nous vient de ce qu'on a entendu, et ce qu'on a entendu nous vient de la parole de Dieu. Donc, c'est important pour nous de commencer l'année en disant, est-ce que j'ai le goût personnellement de rencontrer Dieu en 2020? Chrétien ou pas, parce que c'est quelque chose qui se passe à tous les jours, à chaque semaine, dans les bénédictions, les bons moments de la vie, puis dans les épreuves de la vie. Est-ce qu'en 2020, tu désires que Dieu te parle personnellement, qu'il vienne t'interpeller? Dieu me parle régulièrement à travers les Écritures, personnellement. Est-ce que tu désires ça? Et c'est dans le fond, c'est ma question pour vous, tout au long de la matinée, puis tout au long de la série. Parce que mon désir le plus sincère, c'est qu'en Église, on commence l'année en disant, « Seigneur, parle-nous cette année. » Puis qu'en famille, on dit, « Seigneur, parle-nous cette année. » Vous avez des requêtes, vous avez des défis, vous avez des fardeaux dans vos vies. Vous voulez entendre la voix de Dieu qui vous parle concernant ces défis-là. Vous priez pour vos enfants, vous avez une situation difficile au travail, vous voulez entendre Dieu vous parler par rapport à ces situations-là, non? C'est ça qu'on désire. Mais ça commence avec une décision personnelle. De dire, Seigneur, cette année, je vais venir te rencontrer dans ta parole. Cette année, lorsque je vais venir à l'Église, je viens pour entendre la parole de Dieu prêchée. Je ne viens pas pour écouter Yannick ou écouter un prédicateur. Je viens pour entendre la parole de Dieu prêchée. Je vais pencher mes regards sur les Écritures alors qu'on va exposer les Écritures. Puis je vais chercher, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Je vis des situations, je vis des défis, j'ai des bénédictions, je veux grandir, je veux te connaître. Qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Et donc, toute cette série-là a comme objectif principal, on est désolé, c'est un problème intermittent, ça va jouer comme ça tout le long. Toute cette série-là a comme objectif de nous amener à nous engager comme un pas de foi qu'on fait très sincère où on dit à Dieu, « Seigneur, parle-moi en 2020. Parle-moi en 2020. Parle-nous, Seigneur, dans notre famille. Parle-nous dans notre foyer, Seigneur. Parle-nous comme Église en 2020. » Et Dieu désire nous parler. Dieu désire se faire connaître à nous. La semaine dernière, on a parlé ensemble de la révélation, le fait que la Bible est une révélation de Dieu, qui va bien au-delà de ce que les êtres humains peuvent connaître de Dieu intuitivement. Les gens regardent un coucher de soleil et disent « probablement qu'il y a un créateur, tu sais. » Ce matin, tu sors puis tu regardes la beauté de la neige. Si tu n'es pas fâché, mais tu dis « Wow, c'est vraiment beau. » Puis là, intuitivement, tu prends un bébé, un nouveau-né dans tes bras, puis là, tu peux dire « Je pense qu'il y a quelqu'un qui a conçu cet univers-là. » Même un gars comme Elon Musk, qui est comme complètement flyé, lui dit « Je pense qu'on est dans une matrice. » Ben, prends-les comme tu veux. Si c'est ça, ça veut dire qu'il y a un designer derrière ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut connaître de Dieu peut-être intuitivement. Mais on a vu la semaine dernière que grâce aux Saintes Écritures que Dieu a inspirées, je peux connaître Dieu personnellement parce qu'il s'est révélé. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que Dieu est allé plus loin que ça encore. Dieu est venu se révéler personnellement en prenant une forme humaine dans la personne de son Fils Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, on veut que tu nous parles de Jésus ce matin. On tourne dans l'évangile de Jean, puis on veut que tu nous parles de la gloire de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, élever Jésus à nos yeux ce matin comme on ne l'a jamais vu, dans sa grandeur, dans sa splendeur. Aide-nous à saisir combien Jésus-Christ est beaucoup plus que Jésus de Nazareth. Qu'il est le Christ, la parole de Dieu, Seigneur. Et viens semer dans nos cœurs un profond désir de te rencontrer cette année, Seigneur Jésus. D'entrer en relation personnelle avec toi, Seigneur Jésus. De te voir dans notre soupe, dans les épreuves de la vie, dans les bénédictions, dans nos quêtes personnelles, nos quêtes d'Église, Seigneur. Nous voulons te saisir, Christ, en 2020. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu dans Jean 1.
Alors, le passage est dans Jean chapitre 1, les versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Merci, Stan. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui aiment lire des livres. Moi, j'aime lire des livres. Je lis constamment, je lis super lentement. Hein? Pas besoin de lire rapidement pour aimer la lecture. Plus lent que moi, tu meurs. J'ai fait tous les cours de lecture rapide, ça ne marche pas. Pas avec moi, en tout cas. Mais il y a des auteurs qui m'ont marqué. Puis tu peux connaître beaucoup de choses sur une personne. Si tu as un auteur qui a écrit plusieurs livres, je me souviens d'un auteur de romans jeunesse, il n'était pas chrétien, puis il est décédé d'un accident de moto, très jeune. Puis honnêtement, ça a été un deuil. Pour moi, ça a été un deuil. C'est un auteur français que j'ai jamais rencontré, mais j'avais appris à l'aimer pour son imaginaire, j'avais appris à l'aimer pour sa plume, sa manière de communiquer. Fait que j'avais l'impression qu'il faisait un peu partie de ma vie. J'ai lu tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a produit, puis il est décédé. Je ne sais pas si vous avez vécu comme cette espèce de relation-là avec un auteur. Ça peut être des romans, ça peut être des livres de théologie. Deux des auteurs qui ont le plus marqué ma vie spirituelle, ma théologie, c'est Donald A. Carson, D.A. Carson, puis John Piper. C'est deux des auteurs qui ont le plus marqué toute ma théologie. Je dévore ce qu'ils écrivent, ça m'aide à penser. On dirait que ma pensée connecte avec la leur, puis je lis les Écritures, puis tout devient clair. C'est limpide pour moi. J'aime la manière qu'ils communiquent, j'aime la manière qu'ils prennent la parole, puis ils m'aident à comprendre la parole. Fait que, quand t'aimes un auteur comme ça, une des plus belles choses qui peut t'arriver à un moment donné dans ta vie, c'est de le rencontrer personnellement. Puis de passer du temps avec cet auteur-là. Puis là, lui poser des questions, tu sais, parce que tu as l'impression que vous connaissez déjà. À quelque part, tu es dans sa tête. Ou lui est dans la tienne. Puis moi, j'ai eu le privilège de faire ça avec ces deux hommes-là. Avec D.A. Carson, puis avec John Piper. Monsieur Carson, j'ai eu le privilège de manger à plusieurs reprises avec lui, discuter avec lui, comme adresser des sujets qu'il avait abordés, mais je voulais aller un petit peu plus loin. Avec John Piper, j'ai eu à quelques reprises l'occasion d'échanger avec lui. J'ai tellement hâte d'arriver au ciel. Au ciel, ce sera peut-être pas la première chose que je vais faire. Je pense que Jésus va éclipser beaucoup de désirs, beaucoup de rêves que j'ai pour le ciel. Mais j'ai hâte d'aller prendre un bon thé avec C.S. Lewis. Je me doute qu'il va falloir que je fasse la queue, mais je vais avoir l'éternité pour le faire. Il y aura pas mal de monde peut-être en avant de moi, ou peut-être qu'au ciel, ça sera même plus important ces affaires-là, mais j'aimerais ça aller m'asseoir avec C.S. Lewis. Puis là, commencer à parler de ses romans, puis ses livres où il défend la foi, puis quelle image il y avait ici, puis jusqu'où t'allais. Ce matin, on aborde ensemble le sujet de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec la manière que Dieu s'est fait connaître aux hommes, c'est que découvrir la personne de Jésus, vous allez me dire, ton illustration n'est pas parfaite parce qu'on le découvre dans un livre, vous avez raison, mais à partir du moment de la venue de Jésus, c'est comme si l'auteur du livre t'avait pu aller t'asseoir avec lui. Parce qu'il est venu s'incarner. Il est venu présent. Plein de choses qui étaient extraordinaires dans l'Ancien Testament, qui sont captivantes, d'autres qui sont intrigantes, nébuleuses, des fois choquantes. Là, tu découvres le ministère, la personne de Jésus, tu retournes lire ça à la lumière de ce que Jésus t'aide à comprendre sur Dieu, sur la personne de Dieu. Puis ça prend toute une autre couleur. Ça prend une toute autre saveur, ça devient clair, la charité, la justice. Quand tu es troublé dans des passages de l'Ancien Testament, tu retournes à la croix, tu vas voir Christ à la croix, puis là tu dis, OK, je comprends ton amour, ta justice, tout se résout à la croix. Donc, découvrir la personne de Christ, c'est un peu comme aller manger avec un de tes auteurs préférés. Tu l'as lu pendant longtemps, tu as l'impression de le connaître, mais là, tu as l'occasion d'aller prendre un repas avec puis passer quelques heures à discuter. Parce que Dieu s'est révélé à travers la personne de Jésus. On lit dans la première lettre aux Hébreux, dans Hébreux 1, les versets 1 et 2. Voici ce qui est écrit. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » C'est résumé dans l'Ancien Testament. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, qu'est-ce que l'auteur dit? Il dit, après avoir parlé dans l'Ancien Testament par les prophètes, maintenant, il a parlé par le Fils lui-même. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ et que Jésus-Christ est la parole parfaite de Dieu. C'est un peu énigmatique. Jean 1, c'est... Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus et la parole? Jésus, c'est-tu la Bible? Comme Jésus, c'est un livre, en fin de compte, de quoi il parle? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La première chose qu'il faut remarquer dans le passage, c'est qu'il y a une référence implicite, mais en même temps tellement évidente, à Genèse 1:1. Le commencement de Jean 1:1 fait référence au commencement de Genèse 1:1. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1:1, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, je vous lis les versets 1 à 3 dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On pourrait faire une série juste sur la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu dans tout l'Ancien Testament est spéciale parce qu'à travers sa parole, Dieu se fait connaître. Mais avec sa parole, Dieu commande même les éléments. Dieu crée en parlant. C'est Dieu après tout. Il conçoit la chose, il désire la chose, il la déclare, puis la chose est là. C'est fascinant, dans l'évangile de Jean, Jésus va faire la même chose. Il désire quelque chose, il le conçoit, il le commande, puis la chose se produit. Vraiment intéressant. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, c'est... Lorsque Dieu parle, c'est toute la présence puis la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce qu'il est Dieu. Puis là, on arrive dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu était avec Dieu, Dieu crée en parlant. Donc, sa parole était là avec lui. Et déjà, on apprend que la parole de Dieu est éternelle. On n'a pas encore compris dans Jean 1, c'est quoi? La parole était avec lui, puis la parole était lui. Moi, ma parole est toujours avec moi, puis ma parole, c'est moi. C'est ça qu'il est en train de dire? Non, on va découvrir que cette parole-là, c'est une personne qui est avec Dieu. C'est comme quelqu'un d'autre, mais lui-même aussi. Puis là, ça serait rentrer dans une des doctrines les plus... un des enseignements chrétiens les plus mystérieux, la Sainte Trinité. On va rester avec la Sainte Bible pour ce matin, c'est correct? Mais on a vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu était là au commencement. Donc, ça veut dire qu'elle était là avant. Elle était éternelle. C'est ça qui est implicite dans le texte. La parole est éternelle. Elle est là depuis toujours. Bientôt, on va voir c'est qui la parole, mais rappelez-vous de ça. La parole est éternelle. Elle a toujours été, toujours présente. Elle était là avec Dieu au commencement. Avant que quoi que ce soit existe, Dieu va créer à travers sa parole. C'est par sa parole qu'il va créer. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Mais elle est avec Dieu. Donc, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu. C'est une autre personne. Les gens qui ne reconnaissent pas la divinité de Christ ne veulent vraiment pas ouvrir les Écritures puis juste se placer sous l'autorité des Écritures. Jean est super clair, extrêmement clair. Jésus n'était pas toujours clair de son vivant dans son ministère. Hein? Il y avait quelque chose avec Jésus où il cachait souvent des choses sur lui. Il faisait un miracle, il disait « Passe-en pas, c'est pas le temps. » Mais après sa résurrection, les apôtres écrivent le Nouveau Testament, Jean écrit l'Évangile de Jean, puis la divinité de Christ est super claire. Et quelqu'un qui ne va pas reconnaître la divinité de Christ dans un passage comme celui-là, bien, c'est quelqu'un qui pense qu'on peut imaginer Dieu comme on veut, plutôt que de venir se placer sous l'autorité de la parole. La semaine dernière, j'ai dit « Dans cette Église, comme dans plein d'Églises dans le monde, on cherche à exposer les Écritures plutôt qu'exposer l'opinion d'un prédicateur, d'un enseignant. On vient se placer sous le ministère de la parole. Maintenant, je pourrais me tromper quand j'expose, je pourrais faire des erreurs. C'est pour ça qu'on vous encourage à suivre, à lire les Écritures, puis à dire, attends un petit peu, je pense, Yannick, tu étais dans l'erreur. On peut-tu jaser un peu? Ça se peut-tu des fois, tu sais, tu fasses des erreurs? Hey boy, je ne suis pas parfait. Voyez-vous, parce que l'autorité n'est pas avec moi, l'autorité est dans la parole. Et si, lorsque l'enseignant en avant prend autorité, s'il prend autorité, ça doit être en déclarant ce que la Bible enseigne, en étant conforme avec les Écritures. Autrement, il n'y a pas d'autorité. Dans une église comme la nôtre, on va dire que celui qui est l'enseignant régulier est celui qui va diriger l'équipe des pasteurs. Pourquoi? Parce que l'autorité est dans la parole de Dieu. Donc, si c'est moi qui ai le mandat principal de l'enseignement de l'Église, c'est moi qui ai la responsabilité de conduire les pasteurs de l'Église. On est tous des pasteurs, on est tous égaux. Mais dans un sens, c'est moi qui ai le rôle d'aller prendre l'autorité qui sont les Écritures puis de l'exposer le plus souvent. Et avec ça vient une certaine influence qui est plus grande. Donc, une certaine autorité, mais elle n'est pas en moi, c'est dans la parole de Dieu, vous voyez? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était Dieu. » Puis on va au verset 14 pour pouvoir comprendre de qui il s'agit. Verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ça devient super limpide. Là, on rentre dans un autre mystère, celui de l'incarnation. La parole qui était avant la création, qui existait avant que la terre n'existe, était avec Dieu, elle était Dieu, puis elle s'est faite chair. Elle est devenue un être humain. Si la Trinité, c'est comme un des plus grands mystères de la foi chrétienne, je vous dirais que l'incarnation, c'est peut-être le deuxième. Dieu s'est fait homme, puis a marché parmi nous. C'est miraculeux. Je veux dire, si c'est vrai, c'est juste parce que Dieu veut le faire. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer comme quelque chose de plus fantastique. Ceux qui aiment la science-fiction, moi j'aime la science-fiction, j'aime les romans fantastiques. J'ai parlé de C.S. Lewis, j'aime ces choses-là. Je suis là, puis mon imaginaire décolle. Puis là, j'imagine que je pourrais faire plein de choses. Mais Dieu qui devient un homme. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Alors, peut-être un homme qui deviendrait Dieu. Bon, ça, c'est le plus grand des péchés, hein? On veut être Dieu à la place de Dieu. Il y a quelque chose de fascinant dans ça. Pensez-y un instant. Si vous êtes familier avec Genèse 1, 2, 3, il nous est dit dans la Genèse que Dieu crée la terre, l'univers, les animaux, tout ça. Puis, à un moment, il marque une pause, puis il dit, « OK, maintenant, là, je vais me dépasser, je vais créer un être qui va être à mon image. » Comme tout ce que j'ai fait, c'est vraiment cool, c'est vraiment beau, c'est splendide, la nature est extraordinaire, mais là, je vais aller vers le chef-d'œuvre de ma création, je vais créer l'être humain. Ce n'est pas par orgueil qu'on dit ça, c'est les Écritures qui nous disent ça. Je veux dire, quand je lis le journal puis je regarde ce qui se passe un peu partout au Moyen-Orient cette semaine, je n'ai pas l'impression de voir la gloire de Dieu, bien honnêtement. C'est pas beau ce que je vois, c'est même affreux, c'est abominable, plein de choses qui se passent dans le monde. Mais les Écritures me disent que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, qu'on est différent du reste de toute la création. Maintenant, pensez à ça un instant. Dieu, qui est esprit, devient un être humain. Il vient nous rejoindre. Dieu, qui est esprit, au départ, nous crée à son image, puis après ça, il devient l'un des nôtres. Je ne veux pas blasphémer, là, mais c'est comme si Dieu devient à notre image. Est-ce que vous me suivez? Dieu qui est esprit, qui peut avoir de l'air tellement intangible, tellement abstrait à nos yeux, nous a créés à son image. Puis là, on est là, puis on cherche en nous-mêmes, puis tu dis, moi, je suis fait à son image parce que je trouve que je suis à l'image de toutes sortes d'affaires, mais peut-être pas Dieu. Mais là, tu regardes le reste de la création et tu dis, « Ouais, OK, je pourrais comprendre notre sens du bien et du mal, les quêtes qu'on vit lorsqu'on fait le mal, puis on veut construire, puis le sens de l'esthétique, puis la conscience de soi. » Puis il y a plein de choses où tu dis, « OK, non, on est hors norme. » C'est comme, dans l'univers, on n'a rien rencontré de semblable. Sur la Terre, on n'a rien rencontré de semblable. Mais là, ce qui se passe avec l'incarnation, c'est que ce Dieu-là qui nous a créé à son image devient un être humain. C'est comme si Dieu devenait à notre image. Comme je vous dis, je ne veux pas blasphémer, mais il devient un des nôtres. Il devient comme toi et moi. D'où mon illustration tantôt lorsque je disais, tu lis un auteur, tu veux le connaître, tu as l'impression de saisir ses intuitions, ses sentiments, sa manière de s'exprimer, puis là, comme tu tombes en amour avec cet auteur-là, tu dis, waouh, j'aime sa manière de parler, j'aime sa manière de penser. Puis là, tu as l'opportunité de le rencontrer, passer du temps avec lui. Plus que ça, développer une amitié avec lui. Dieu s'est incarné, il est devenu un être humain. Il est venu nous parler dans le langage le plus compréhensible qu'on pouvait avoir. Le christianisme enseigne que Dieu n'est plus abstrait. Le christianisme, je sais que c'est un ange, désolé, petit problème intermittent de lumière, et la lumière fut. Le christianisme enseigne que Dieu n'est plus abstrait. La semaine dernière, j'ai cité quand Moïse doit aller parler au nom de Dieu au peuple d'Israël. Puis là, il dit, OK, c'est comme super, mais ils vont me demander qui je dois présenter. Bien, tu vas dire, c'est celui qui est. Philo 101, cégep. Vous avez aimé vos cours de philo? Tu vas dire, je suis celui qui suis, c'est lui qui t'envoie. Tu sais, c'est quand même abstrait, sérieux, là. Tu veux dire, moi, je tripais sur les cours de philo. Fait quand j'arrive sur une phrase comme ça, je peux... Tu sais, c'est « Ah, des heures, je suis celui qui est. » Mais je sais que pour plein de monde, c'est comme « Mais encore. » Tu sais. Puis là, il vient, il s'incarne dans une personne. Une personne que tu vois agir, que tu vois réagir, que tu entends parler, que tu vois souffrir, que tu vois mourir. Que tu vois ressusciter. Pour les chrétiens, Dieu n'est pas abstrait. C'est une des choses que j'aimerais vous communiquer à travers cette série-là, c'est que dans nos souffrances, dans les moments où ça ne va pas bien, Dieu devient abstrait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Souvent, quand ça ne va pas bien, tu as l'impression que Dieu devient distant, puis là, c'est comme si Dieu, c'est pas concret, là. Dieu... Je ne sais pas comment il va m'aider. Là. Tu sais, c'est correct, Yannick, Dieu, là, mais qu'est-ce que ça change maintenant? Puis dans notre souffrance, souvent, Dieu devient abstrait à nos yeux. Je pense qu'on va le laisser allumer. Hein? Dieu n'est plus abstrait. Il s'est fait connaître dans la personne de Christ. Il s'est incarné. Et je vais vers lui pour voir comment Dieu pense. Pour voir comment Dieu réagit. Pour connaître le cœur de Dieu, je vais vers Jésus dans les Évangiles. Puis après ça, je lis tout le Nouveau Testament pour comprendre ce qu'eux autres ont compris. Ils l'ont côtoyé, ils ont vécu avec lui. Puis je veux savoir comment est Dieu. Comment est Dieu devant la souffrance des hommes? Est-ce qu'il est indifférent? Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que Dieu est indifférent à ma souffrance. Je suis seul dans mon coin, puis Dieu est loin de moi. Mettons, là, tu sais, puis comme Dieu est abstrait, il est loin de moi. Mais je vais vers Jésus dans les Écritures, puis je dis... Non, attends un petit peu, il n'est pas indifférent à la souffrance. Il prend toujours la défense de ceux qui sont rejetés. Il intervient constamment vers ceux qui sont comme les plus méprisés de la société. Il demeure ouvert pour eux constamment. Dieu n'est plus abstrait à partir de la venue de Jésus-Christ parce qu'il s'est incarné. Il est devenu un homme. Puis Jean nous dit que Jésus est la lumière des hommes. Dans Jean 1, au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La série La Sainte Bible veut qu'on réalise que Dieu parle aux hommes. Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler. Mais quand Jésus est venu, c'est Dieu qui est devenu hyper explicite. C'est Dieu qui a parlé aux hommes pour nous montrer la lumière, pour nous montrer le chemin vers Dieu. Il est allé rencontrer des pharisiens de son temps, des gens qui étudiaient l'Ancien Testament, puis qui avaient comme... pas compris grand-chose en fin de compte, puis qui tordait tout ça, puis lui arrive, puis il dit non, vous n'avez pas compris, regardez, on va aller voir le texte ensemble. C'était pas ça l'idée, j'ai une petite idée là-dessus, puisque je suis Dieu le Fils, je suis la parole de Dieu, laissez-moi vous aider à comprendre, c'était quoi vraiment notre intention quand, tu sais, on a inspiré ce passage-là. Jésus est la lumière qui vient nous guider. Les Juifs avaient reçu, pour la majorité, de Dieu dans l'Ancien Testament comme un programme de perfectionnement. On va te donner des lois, tu vas te perfectionner, puis avec ça, bien, on va espérer que ça va bien se passer quand tu vas te présenter devant Dieu. Pourtant, la grâce, le pardon, c'est présent partout dans l'Ancien Testament. Mais par défaut, le cœur humain, on prend ça, puis OK, c'est un programme de perfectionnement. L'année commence, je vais commencer à aller dans une église évangélique, ça a l'air qu'ils ont des belles valeurs, je vais intégrer ces valeurs-là. Programme de perfectionnement, je vais devenir quelqu'un de bien. Puis là, Jésus vient, puis il dit, vous n'avez rien compris. La perfection, vous n'y arriverez jamais, vous êtes pourri à ce jeu-là, vous n'êtes pas bon, vous n'arriverez pas à faire ça, lâchez prise, puis recevez la grâce. Acceptez que je vous pardonne vos péchés. Donc, Jésus vient pour éclairer les hommes. Ils avaient déjà la parole. Ils étaient là, ils avaient tout l'Ancien Testament. Et ça prend Jésus qui vient pour nous aider à comprendre. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi la sainteté de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la grâce? Ça me prend Jésus qui vient pour comprendre ça. Si tu es en train de chercher la foi chrétienne, C'est pour ça qu'on dit « commence par le Nouveau Testament, commence par les Évangiles ». Tu vas lire l'Ancien Testament, puis tu vas dire, ça se peut qu'après quelques chapitres ou quelques livres, tu sais, si tu passes à travers Genèse, Exode, quand tu vas arriver dans Lévitique, en principe, tu devrais fermer le livre. Si tu réussis à traverser tout ça, puis là, tu t'en vas avec les juges. Ouf! Il y a des choses qui vont te choquer, là. Tu vas vouloir fermer ça. Commence avec Jésus. Va t'éclairer. Commence avec le Nouveau Testament, les Évangiles. Va lire l'Évangile de Marc, l'Évangile de Jean. Une fois que tu auras lu le Nouveau Testament, tu liras l'Ancien Testament. Parce que Jésus vient et nous éclaire. Il nous aide à connaître Dieu comme Dieu ne s'est jamais fait connaître avant. Jésus, c'est la plus belle lettre de Dieu. Excusez-moi, j'allais tousser. Jésus-Christ, c'est la plus belle lettre de Dieu. Dieu nous parle à travers lui. Dans Colossiens 1, 15 à 17, on lit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Jésus est la plus belle lettre de Dieu. Quand tu as l'impression que Dieu devient abstrait et s'éloigne de toi, cours à Christ. Va vers lui. Si tu dis, je cherche Dieu, je veux connaître Dieu, mais c'est abstrait pour moi, va découvrir Jésus-Christ. Tu dis, je ne comprends pas le mal dans le monde, cours à la croix. Tu ne comprendras peut-être pas tout, mais tu vas comprendre l'amour de Dieu. Tu ne comprendras peut-être pas pourquoi Dieu laisse encore autant de souffrances, mais tu vas comprendre, tu vas connaître l'amour de Dieu à la croix. Tu vas dire, OK, je suis à la lumière de la croix, je peux accepter beaucoup de choses puis patienter. Patienter pour le retour de Christ. Jésus est la plus belle lettre de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut être une église qui est émerveillée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On veut être une église qui constamment vient renouveler son émerveillement, son appréciation pour ce que Jésus a fait. Ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, « Yannick, je suis tanné que tu parles de Jésus, tu parles toujours de Jésus. » Il y a même des mouvements où c'est comme, « OK, là, il faut découvrir l'Esprit-Saint. » C'est correct, je pense qu'il y a des choses, des fois, qu'on néglige, j'en ai parlé beaucoup dans le livre des Actes, dans le livre de Galates, je m'excuse. Mais en même temps, le Saint-Esprit est là pour nous parler de Jésus. Quand tu découvres le Saint-Esprit, tu comprends comment il travaille, tu saisis comment il travaille dans nos vies, mais à la fin de la course, en principe, tu reviens à Jésus. Puis là, tu veux découvrir le Père dans toute sa beauté, dans toute sa majesté, mais le Père, il dit, si tu veux me connaître, va connaître Jésus. Quand tu vas connaître Jésus-Christ, quand tu vas le comprendre, tu vas connaître le Père. Donc, je reviens tout le temps là parce que Jésus-Christ est la plus belle lettre de Dieu pour se faire connaître à nous. Et donc, je reviens tout le temps là. Quelqu'un qui me posait une question sur la prière dernièrement, puis il me disait, qui on prie? Est-ce qu'on prie Dieu? Est-ce qu'on prie Jésus? Bien, c'est vraiment intéressant parce que la majorité des prières dans le Nouveau Testament sont adressées au Seigneur. Puis dans la majorité des cas, le Seigneur, c'est Jésus, si vous regardez dans le contexte. Mais on est en train de dire ce matin, Jésus, c'est Dieu, la parole de Dieu. Et donc, je vais prier le Seigneur Jésus. Je vais prier au nom du Seigneur Jésus. Je vais prier le Père, mais encore une fois, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est la plus belle lettre de Dieu. Voyez-vous, quand Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, il est venu parler notre langage. Jésus est la parole de Dieu. Dieu le Père parle à travers lui. Jésus, ce n'est pas la Bible. Okay, parce que ma Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus, ce n'est pas la Bible, mais clairement, le Fils de Dieu a joué un rôle dans l'inspiration, dans la rédaction des Saintes Écritures. Mais surtout, ça m'amène à mon dernier point ce matin, surtout, Christ est la clé pour comprendre toutes les Écritures. Christ est la clé pour saisir toutes les Écritures. Toutes les Écritures parlent de lui. La Bible parle de Jésus-Christ. Dans Jean 5, verset 39, Jésus dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il dit « Vous sondez les Écritures pour trouver la vie éternelle, mais les Écritures parlent de moi. C'est moi que vous voulez rencontrer. C'est moi que vous voulez découvrir. » Dans Luc 24, 27, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, pour ceux qui sont familiers, « Et commençant par Moïse, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des milliers de passages qui pointent vers Jésus-Christ, où on attend Jésus-Christ. Dans un certain sens, toute la Bible parle de lui. Quand vous l'essayez de résumer la Bible, vous pouvez le résumer en quatre mots. Okay? Peut-être que ça peut vous aider, juste une petite clé. Création, Dieu crée les cieux et la terre. Chute, le péché vient tout bouleverser. Rédemption, Dieu vient racheter à travers l'œuvre de Christ. Et puis, restauration, on attend les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous avez quatre mots. Création, chute, rédemption, il vient racheter, restauration. Puis quand vous pensez à ces quatre mots-là, vous promenez à travers toutes les Écritures, puis vous comprenez que tant que Jésus n'était pas venu, tout pointait vers lui, on attendait sa venue. Une fois qu'il est venu, on se réjouit de ce qu'il a fait, puis on attend juste la restauration finale. Je retourne lire l'Ancien Testament. J'avais une discussion avec un frère cette semaine où on disait, OK, on dit qu'on prêche la parole centrée sur l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Je ne peux pas lire l'Ancien Testament comme chrétien, comme si Jésus n'était pas venu. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Je ne peux pas lire l'Ancien Testament comme un juif qui attend le Messie. Non, le Messie est venu. Il y a plein d'affaires dans l'Ancien Testament qui n'étaient pas faciles à saisir, qui n'étaient pas faciles à comprendre, qui pointaient vers la venue de Jésus-Christ. Puis une fois qu'il est venu, je me retourne lire l'Ancien Testament à la lumière de ce que Christ a fait, à la lumière de son œuvre à lui. Et c'est ça, être centré sur l'Évangile. Je vais lire toute la Bible en comprenant que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ m'aident à comprendre toutes les Écritures au complet, toutes les saintes Écritures. Je reviens avec mon illustration du début. Vous aimez un auteur, vous aimez apprendre à le connaître, puis un jour, vous avez l'occasion de le rencontrer. Puis là, vous découvrez vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire ici, qu'est-ce qu'il voulait faire. La première chose que tu veux faire si tu veux comprendre la Bible, c'est que tu veux connaître Jésus-Christ. Tu veux aller vers lui. Il y en a des plus vieux chrétiens qui se rappellent, dans le temps, on avait une expression en anglais, c'était « What would Jesus do? » Vous vous rappelez de ça? WWJD, on avait des collants, des bracelets, WWJD. What would Jesus do? C'est pas tout à fait juste, mais c'est pas tout à fait faux. Jésus vient puis aide les Juifs à comprendre la loi de l'Ancien Testament qu'ils n'avaient pas bien compris. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, quand tu lis le Nouveau Testament, quand tu es dans une épreuve de la vie, à quelque part, la question qui revient, c'est qu'est-ce que Jésus pense de cette situation-là? Qu'est-ce que Jésus ferait dans ces circonstances-là? Qu'est-ce que Jésus aurait à me dire sur ce texte-là qui me scandalise? Je suis en train de lire des passages, puis là, je suis comme, mais c'est bien violent, cette affaire-là, ça n'a aucun bon sens, c'est exigeant, c'est comme, c'est décourageant. Je lis le texte, puis je me dis, OK, je ne vais pas au ciel, c'est fait, je suis damné. Ah, mais retourne à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a à dire sur ce passage-là? Comprends son œuvre, sa personne, puis retourne vers le texte. Fait qu'à quelque part, Jésus m'aide à comprendre toutes les Écritures, constamment. Et donc, je veux apprendre ça. Autrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déformer le sens des Écritures. Fait que, j'espère que plusieurs d'entre vous, vous êtes embarqués avec nous dans le plan de lecture de la Bible. Une des plus grosses erreurs que vous pourriez faire, ce serait de lire toute la Bible avec nous cette année, sans vous poser la question, régulièrement. Qu'est-ce que la personne puis l'œuvre de Jésus vient me dire sur ce passage-là? Comment l'œuvre de Jésus-Christ vient éclairer ce passage-là? Si vous ne le faites pas, vous allez lire les Écritures comme un Juif l'aurait fait, puis ça se peut que vous terminiez avec un code de loi incroyable. Là, vous allez dire, mais c'est lourd, cette affaire-là, c'est insupportable, c'est dur, il y a des guerres, sanglantes. Qu'est-ce qui se passe? Mais si vous gardez Christ avec vous tout au long pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, vous allez comprendre la justice, la sainteté, l'amour de Dieu. Vous allez avoir espoir à son retour. Vous allez attendre qu'il revienne. Cette année, en 2020, on veut rencontrer Dieu. Puis on veut que Dieu nous parle. Et lorsque Dieu nous parle à travers les Saintes Écritures, mais il nous parle à travers l'œuvre que Christ a fait en notre faveur. Quels que soient les défis, peut-être que tu vis des défis au travail, peut-être que tu vis des défis dans ton couple, peut-être que tu vis des défis avec des amis, dans ta santé. Tu as des projets, tu as des rêves, tu essaies de réformer ta vie pour mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as décidé, je veux suivre Dieu en 2020. Fait que je vais aller vers la parole. Je vais aller vers la parole pour que Dieu me parle. Mais Dieu m'a parlé de la manière la plus excellente à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Puis c'est en connaissant Jésus-Christ que je veux aller lire les Écritures. Dans le même passage, puis je termine avec ceci, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Dans le même passage, au verset 12, dans Jean 1, au verset 12, voici ce qu'on lit. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus-Christ, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Si tu veux connaître Dieu en 2020, la première chose que tu dois faire, c'est connaître Jésus-Christ. Si tu cherches à connaître Dieu, même en lisant les Écritures sans connaître Jésus-Christ, tu vas te méprendre sur la personne de Dieu. Tu vas juger Dieu à tort. Tu vas déraper, tu vas t'imaginer un Dieu. Tu vas aller chercher des snippets, des petits morceaux dans la Bible qui te font du bien, puis tu vas te construire un Dieu. Mais à ceux qui l'ont connu, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui ont cru en son nom, il y a un nom. Il s'appelle Jésus de Nazareth ou Jésus-Christ. Ceux qui placent leur foi là vont devenir enfants de Dieu. La semaine prochaine, on va parler de l'œuvre de l'Esprit qui vient en nous. Lorsque je crois en Jésus, j'ai maintenant un super pédagogue qui vient faire sa demeure en moi puis qui va servir de la parole de Dieu pour me parler. Mais ça, là, ça va se produire seulement si tu crois en Jésus-Christ. Donc, tu viens à l'église ici, puis tu es en train de chercher, tu côtoies des chrétiens, tu cherches Dieu. Prends ton temps, continue à chercher. Tes parents sont chrétiens, tu dis, c'est moi, peut-être pas, je ne sais pas si c'est pour moi, tout ça. Continue à chercher, c'est correct, pose des questions, challenge les chrétiens. Viens nous voir quand tu trouves, votre foi, ça n'a pas de bon sens, ça ne se tient pas, votre affaire. Viens nous mettre au défi, c'est super, on va prendre le temps d'ouvrir les Écritures avec toi, répondre à tes questions. Mais saisis bien une chose. Tu ne connaîtras pas Dieu tant que tu ne connaîtras pas personnellement Jésus-Christ. Mais lorsque tu vas connaître Christ, tu vas connaître l'amour de Dieu. Tu vas connaître sa grâce. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est à travers lui que j'apprends à rencontrer Dieu dans les Écritures à tous les jours. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour... Merci pour ta parole qui nous parle de toi, de ta grandeur, de ta beauté. Mais Père, je veux te rendre grâce avant toute chose d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu avais parlé auparavant à travers les prophètes. Tout l'Ancien Testament nous aidait à te connaître, Seigneur. Il y a tellement de livres absolument inspirants. Chaque livre de l'Ancien Testament est un joyau pour te connaître, Seigneur. Mais jamais, jamais tu n'avais parlé si clairement, de manière aussi intelligible, Seigneur, que lorsque tu t'es incarné et que tu t'es fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es le joyau de la création. Seigneur Jésus, tu es notre précieux Seigneur. Tu es l'expression visible du Dieu invisible. Lorsque je te côtoie, Seigneur, lorsque je te prie, lorsque je lis, Seigneur, les Écritures en essayant de comprendre qui tu es, ta pensée, Seigneur, ce qui m'est inspiré, c'est la sainteté et la grâce. Ce qui m'est inspiré, Seigneur, c'est le désir d'être comme toi, puis la paix de savoir que j'y suis vraiment pas encore. Sans me décourager, Seigneur, je peux continuer à lire les Écritures parce qu'en toi, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Je reviens vers toi, Seigneur, puis mon cœur est chargé de foi. Seigneur, j'aimerais te demander de venir te révéler à nous comme Église. Toi, Jésus-Christ, viens te révéler à nous. Puis viens nous faire connaître le Père, Seigneur. Viens nous faire connaître notre Dieu créateur. Viens nous faire connaître l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous comme on ne l'a jamais connu en 2020, Seigneur. Conduis-nous quotidiennement, puis semaine après semaine, dans ta sainte parole, Seigneur, afin que nous puissions te connaître, ô notre Dieu. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.